Mary Sangeletti, onirocritique, hashtag 3, en collaboration avec Monica Fantini, atelier radiophonique de rêve collectif. Peut-on intervenir sur la casualité des rêves communs qui pourraient nous habiter en ces temps éprouvants de distanciation généralisée, afin de les diriger et les manipuler pour en faire des rêves lucides collectifs? Est-il possible de s'appuyer sur le partage d'une méthodologie de sorte à faire communier tous les psychismes dans une philosophie du repos? En ce jour du solstice d'hiver, lundi 21 décembre, et de la nuit la plus longue de l'année, l'objectif de cet atelier radiophonique live avec Mary Sangeletti et Monica Fantini consiste à plonger collectivement et à distance dans la rêverie par la voix et les sons, et de développer un ou plusieurs rêves lucides collectifs. Les participantes et participants pourront partager avec l'artiste de manière confidentielle ou anonyme leurs rêves sur une adresse mail, selon un processus de pollinisation inconsciente.
Au début du IIIe siècle, le philosophe Artémidore de Daldis entame l'écriture de son œuvre principale, l'Onirocritique, de l'interprétation des rêves. Une vaste compilation de narrations oniriques classées avec soin, des Grecs et des Romains de l'époque. Du fumier à la flatterie, d'Apollon aux échelles, on y retrouve des images récurrentes qui semblent traverser les esprits rêveurs, passer d'une expérience onirique à l'autre, selon un principe des vases communicants, où une communauté socialement définie et consciente cède la place à une communauté indisciplinée, aléatoire, nocturne. En 1867, Léon d'Hervé de Saint-Denis décrivait dans son œuvre « Les rêves et les moyens de les diriger » une méthode à la fois intuitive et expérimentale pour diriger les rêves, qui s'appuie sur l'imagination active pour intervenir directement sur la création du récit du rêve, des rêves lucides. À la croisée de ces deux expériences, j'ai entamé une série d'ateliers pour la diffusion de la pratique du rêve lucide, dans le but de créer des liens entre les rêveurs et les rêveuses à la recherche de rêves partagés. Le premier atelier s'est déroulé sur invitation de Christina Solomouka du 1er au 21 octobre 2020 à la Maison de l'Ours à Paris, dans le cadre de l'exposition « Exposition des rêves ». Le deuxième a eu lieu du 23 au 27 novembre 2020 comme contribution à un cycle d'intervention et workshop autour du sacré proposé par l'INSA de Paris. Les rêves et les expériences racontées ont nourri la naissance d'une archive de rêves. De son côté, Monica Fantini travaillait déjà au projet Écouter le Monde, une émission radio de Radio France Internationale et une plateforme sonore. Lancée sur écouterlemonde.net, l'appel à participation La Ville Rêvée a invité des contributeurs du monde entier à capter et à transmettre des sons de leur environnement, des sons du quotidien, désormais cartographiés et en libre accès sur le site écouterlemonde.net.
Et cette collection de sons écoutés, enregistrés, rêvés, sont donc en ligne et en libre accès. Ils sont une ville rêvée, à disposition de tous. Et à partir de tous ces sons, j'ai composé des mosaïques sonores, des villes rêvées, qui ont été diffusées à la radio, sur Radio France Internationale.
80 contributrices et contributeurs, amateurs et professionnels, chercheurs et artistes, ont envoyé des enregistrements sonores du monde entier, du Caire, de Venise, de Hanoï, de Athènes, de Dakar, de Kyoto et Tokyo. Et ils ont aussi répondu à ces questions.
Ces questions sont: comment imaginez-vous les ambiances sonores de la ville rêvée? Pourquoi cet enregistrement sonore vous touche-t-il? Pourquoi voulez-vous les donner à entendre? Et s'agit-il d'une ambiance sonore ordinaire pour vous? Quelle autre ambiance sonore voudriez-vous écouter dans votre ville rêvée? Et encore, existe-t-il une ambiance sonore produite par vous dans l'espace public que vous aimez?
Oh! Je suis dans un immense musée avec ma famille. Un agent m'interpelle pour l'aider dans des tâches ménagères. Je me cache sous la table, j'ai l'impression d'avoir 4 ans. À table, les discussions vont bon train. Les grands-parents m'expliquent de grandes vérités. Il faut s'éloigner des personnes nocives. Ma grande et vieille tante me propose de s'asseoir à côté d'elle. Des regards mesquins, de l'agressivité. J'y vais, je lui fais un câlin. Une voix dans ma tête m'explique que ce sera sa dernière étreinte avant sa mort. Je pars chercher mes frères et sœurs à l'école. Je suis dans une grande plaine, une étendue immense. Je dois ensuite aller vers la grande tour, une tour immense comme je n'en ai jamais vue. La tour avance comme un bateau sur les flots. Je suis penchée au parapet où les vagues frappent. Un couple de pêcheurs m'aborde. Tu veux connaître la plus belle histoire de pêche du monde ?
La clé qui tourne dans la serrure rouillée, les feuilles sous mes pieds en automne.
Pourquoi écouter ?
Vos talons sur le trottoir, ma respiration essoufflée. Le grincement des pédales de mon vélo.
Les conversations sur les bancs, l'eau qui coule, le vent.
Les gens, les chiens, les chats, les oiseaux, les petits silences, l'océan.
Il faudrait que des personnes se rencontrent. Ce seraient des rencontres fortuites entre des personnes qui, pour des tas de raisons, ne se parleraient jamais autrement.
Je veux vivre avec des sirènes et des lémuriens, des grenouilles, et des vigiles crieurs et drôles, mais aussi avec des coqs du Caire, des cigales de Tokyo et les rires des passants. Ceci est un rêve de ville sauvage.
Volume bleu en plastique, des rails. Je pense à mes cils, parce que c'est eux la lisière de mon sommeil, au bord de mes yeux.
Je retiens l'image de deux hommes. Vieux marins qui discutent sans s'écouter, dans une pièce sombre avec une seule fenêtre et remplie d'objets. Je joue le thérémine intensément.
Une langue inventée à consonance grecque, un poème qui n'est plus grec. Strassa, une route peut-être.
Je me trouvais devant une lumière blanche d'une forme ovale, verticale et rayonnante.
Ce sont moins des images que des sensations.
Des feuilles qui volent, un paysage qui change de couleur, puis alors que j'entends le mot cercueil, vie et résurrection, j'ai l'image d'un gros ventre qui sort de la terre et qui tout doucement illumine le paysage.
Les animaux sont véritablement anthropomorphes et ne m'inspirent absolument pas de confiance.
De raconter ses rêves.
Le poulain était noir, disons.
L'intérieur avec une table, étagère avec des verres, les noms des personnages féminins qui reviennent.
J'ai rêvé d'une énorme structure en béton qui avait à l'intérieur des immenses structures en bois en construction. Une fois terminée, elle permettait aux skieurs de faire des descentes sur des pistes suspendues dans l'air.
Rêve très dense d'un tournage à l'extérieur avec une deuxième partie très étrange où il fallait convaincre les autorités locales de tout et un tas de choses pour un tournage sur ce site.
Des visions étranges m'ont habité cette nuit. Un monde fait de personnages tout petits et tout grands.
Texte musical, chant concret.
Un mélange de tableaux surréalistes et de films fantastiques.
Couché à minuit 48. Réveillé à 5h25, noir.
Étrange appartement. ou des pièces qui sont en forme géométrique, différentes et inhabituelles. Je me souviens d'une pièce où la majorité du sol était de plusieurs mètres plus bas que dans le reste du reportage.
Pojawia się Sara, rozmawiamy. Mówi, że się nie spodziewała, że nas spotka. To wyglądało tak, jakbyśmy nie widziały się przez lata.
La pièce chronique l'extérieur à travers un grand portail en fer. Sur la gauche, il y a une grande fenêtre, une longue table. À table sont assises toutes les personnes décédées de ma famille, qu'on prend un repas de Noël. Ils mangent, discutent et rigolent. Une vieille dame, que je soupçonne être mon arrière-grand-mère, me dit que jusqu'à mon mariage, ils vont s'occuper de moi.
Byłam z Cyriliem w restauracji, zostawił napiwek 150 euro na okrągłej tacy. Chełpił się, że kelner nigdy nie dostał jeszcze tak wysokiego
napiwku. Avec et entouré par un groupe de jeunes gens et des enfants.
C'était l'hiver et l'endroit était en ruine, comme dans une zone de guerre.
Et qui faisait beaucoup de bruit comme une grande ville.
I will owe you a drawing, be strong.
Et ci sono tre porte dai colori pastello,
una verde. J'ai rêvé de participer au funérail dans une très grande et vieille maison.
Je ne comprends rien.
Je pense que mon frère était là aussi.
Les couleurs étaient noires.
Je ne m'en souviens pas de mon rêve.
Une colline, une roulade des objets, des personnes. Je ne me souviens pas exactement.
Paul Béatrix Preciado a écrit « Parce que le croisement est le seul endroit qui existe ». Je lui réponds à ma façon, et ceci est un rêve. Nous sommes des blocs de pensées entremêlées, des corps vibrants, des imprévus vitaux, des étrangers intimes. Nous sommes le lieu du croisement, voilà ce que nous sommes. Dès là où nous sommes, nous attendons tout, tout ce qui arrive. Ce n'est pas un lieu de promesses. Le croisement. Nous y allons par désir. Il arrive même qu'en son lieu, des idées deviennent des caresses et des caresses prennent la forme d'une idée. Tout y est terriblement délicat, un devenir. La douceur de l'un à l'autre, à elle seule, permet à ces lieux d'exister. C'est tout et c'est inouï.
C'est étrange, on parle des gens de la mer alors que je viens d'arriver sur le bateau. Un Bavaria 39 pour passer le week-end en mer.
Je suis assise au bord d'un ponton et je regarde la mer, calme. Des bateaux aux coques colorées sont en grand nombre devant moi. Derrière moi, il y a le sable. Je sais que le sable est chaud, même si je ne le touche pas. Et puis il y a une falaise, je me lève et je remonte la falaise à travers un petit chemin.
J'étais au milieu d'un terrain verdoyant, autour duquel une immense rivière faisait boucle. J'expliquais à quelqu'un que la rivière jaillissait avec une grande puissance et le fait de faire une boucle permettait de ralentir son cours. La boucle était parfaitement circulaire. Ce cercle était traversé par une diagonale. Une autre rivière qui coulait à travers sans se mélanger à la première.
Mercredi, suite du rêve. Le voyage commence. Je suis assis dans une petite barque. Il y a un Indien qui est mon alter ego. Devant lui vibre une lumière informe qui nous dirige. Nous voyageons dans la forêt amazonienne sur un ruisseau. Tout autour de moi est vert. Je sens la pente, le glissement et l'écoulement de l'eau. Nous avançons sans aucun effort.
On marche dans une ville, les rues, les passages. Je sais que pas loin, il y a la mer et la plage. On hésite de prendre la promenade au bord de l'eau, car il y a beaucoup du monde.
Se promener à travers une ville, c'est aller à l'aventure. Je suis tombée amoureuse des trams et des élévateurs de Lisbonne.
Des sirènes d'une ambulance en ville, aussi de la sirène d'un bateau au moment du départ, d'un parapluie qui s'ouvre et se ferme.
La volée des cloches, les fontaines qui se répondent, les rires des inconnus.
Cet enregistrement est une tentative de partage.
Moi, j'ai dit qu'on ne peut pas vivre sans enfance. Par moments, la vie est un jeu ou une peine à crier. C'est pour chérir l'enfance que j'ai rêvé d'une ville marelle.
Et pourtant, le matin, je me réveille vide et je n'ai pas de souvenir de ma nuit.
Tout s'éteint. Comme si on avait aussi pris toutes les ampoules et toutes les lumières qui illuminaient mon rêve et nous avait tout éteint simultanément.
Plusieurs rêves qui se superposaient et qui se sont effacés en se superposant. Les vents se rapprochent et s'éloignent, se ressemblent et se dispersent.
Je commence un rêve alors tout à fait lucide. Dans le rêve, je suis toujours dans mon lit, exactement dans la même pièce. Mais je décide de défier le sommeil et de me lever. Et de me diriger vers la pièce voisine. Je me retrouve alors nez à nez avec des parasites qui infestent toute la pièce.
Je suis en train de sélectionner des rêves. Je me vois assise sur le lit, appuyée sur mon bras et penchée sur quelque chose posé sur le lit, qui est comme un ensemble de documents.
Et tout le processus administratif est tout de suite accepté. Je me demande pourquoi, mais je ne me pose pas plus la question.
On sonne à la porte. Je remarque dans la cuisine que le tiroir est ouvert. Je n'ai pas le temps de m'en occuper.
Je trie des rêves.
Ça m'a semblé si doux.
Dans ma ville sonore,
j'aimerais bien entendre les avions et les marchands ambulants, les bruits des marmites et la machine à coudre d'outailleurs de Dakar,
les pieds dans les flaques,
les éclats des voix des baigneurs dans les piscines publiques. Je trouve les rythmes réguliers des vagues rampant sur le sable noir d'Islande, à la fois puissante et douce, apaisant et relaxant.
J'aime entendre mes éternuements, des cordes et des tuyaux résonnant dans le vent, des nombreux pas et des voix qui parlent des langages très différents.
Le son est une vision pour soi, invisible aux autres, comme les rêves, non ?
Je suis au Congo dans un petit bus. Je demande mon arrêt à un des passagers. J'arrive dans une maison. Je crois reconnaître mon oncle. Il y a un petit frigo que je fixe et ouvre. Puis une femme apparaît. Elle marche dans la pièce. Elle accélère. Puis je me retrouve à l'extérieur dans un paysage aride. Un moustique me bourdonne à l'oreille. La femme bondit à nouveau et s'enfuit dans un paysage étendu. Une voix d'homme me dit qu'elle est repartie à Paris étudier.
Nous sommes dans cette forêt primordiale. C'est l'aube. Le nid est une sorte de couronne d'épines, d'une couleur rouge, sang de pigeon. En un flash, je comprends ces visions comme le dessin d'un disque rouge sur fond noir. Le creux formé par la terre est lui-même entouré d'arbres qui forment des lignes blanches et noires. Le rouge est la première couleur du concret qui peut apparaître de l'abstraction des trous noirs. Ces passages, spatio-temporels surréalistes, sont aussi des volcans dont le bouillonnement du magma jaillit et sort du plus profond de la Terre.
De cette explosion peut éclore des étincelles du nid, des éclairs et même des oiseaux de flamme bleue.
Un manuscrit étranger, défraîchi, plein d'ellipses, d'incohérences, de corrections suspectes et de commentaires tendancieux, et écrit non à partir de conventions graphiques normalisées, mais plutôt de modèles éphémères, de formes, de comportements.
Je me retrouve dans les rues de Paris. Il fait nuit. Je pense à la femme. Je rentre dans un bâtiment. Je me retrouve dans un grand hall avec des boiseries foncées. Je prends l'ascenseur, mais une fois dedans, il y a comme plusieurs pans de mur qui se referment sur moi et me compressent. J'appuie sur les boutons de plusieurs étages, puis je perds mes repères.
J'enregistre pour garder la mémoire d'un lieu qui va disparaître.
J'aime entendre quand je frappe une barrière métallique, quand je jette un caillou dans l'eau ou quand je frotte avec ma main humide sur une vitre.
Le son devient un rêve que chaque auditeur accomplit subjectivement.
Oui, j'aime ma voix quand j'essaie de communiquer avec les corneilles qui jamais ne me répondent. Un câlin, un soupir après avoir regardé le ciel, une claque pour tuer un moustique.
L'orage et les météores.
Il existe une ville bâtie sur des nuages de vapeur, de ferraille, de chiffons, des ballons et des cris des sirènes. C'est une cité fantôme qui surgit du passé, comme un rêve.
Le son est un souvenir.
Edouard dans un survêt jaune, il sentait le poisson parce qu'il était policier en Islande et il avait arrêté une cargaison de fraude de poissons.
Mode d'emploi pour la propagation des rêves éveillés collectifs. 1. Munissez-vous d'un cahier et d'un stylo. 2. Le soir du premier jour, suite à l'écoute de cette émission, concentrez-vous sur les toutes premières images qui se forment au moment de votre endormissement. La nature de ces images est bouillonnante. Essayez de saisir un ou plusieurs détails et mémorisez-les à l'aide du carnet. C'est à partir de ces images embryonnaires que le rêve lucide va se construire au fil des jours. 3. Chaque soir suivant, lors de votre endormissement, ramenez à la mémoire les images de départ pour qu'elles prennent forme dans les rêves. 4. Le matin, ou à n'importe quel moment de réveil nocturne, prenez note de l'heure du réveil et des images que vous retenez. 5. Pendant votre état de veille, observez si les images oniriques se manifestent en forme de souvenirs. Essayez de trouver des moments dans la journée pour évoquer les images des rêves. Ce processus tisse des liens entre votre activité nocturne inconsciente et votre activité consciente et permet de fixer les images dans le cerveau pour qu'elles puissent réapparaître la nuit. 6. Essayez de garder une certaine régularité d'heures de couchage et d'heures de réveil pendant l'expérience. 7. Gardez le carnet toujours à portée de main pour prendre note de tout ce qui se déroule dans votre inconscient et qui est en lien avec le rêve que vous êtes en train de construire. 8. L'expérience peut être interrompue à n'importe quel moment. Un entraînement d'au moins 21 jours est recommandé, mais pas obligatoire, pour que l'habitude au rêve lucide puisse commencer à s'installer.
Il existe près du pays des Cimériens une grotte profonde et retirée, au creux d'une montagne, la demeure secrète de l'indolent sommeil. Qu'il se lève, soit au milieu de sa course ou se couche, Phébus jamais n'y peut introduire ses rayons. Du sol montent des vapeurs mêlées à l'obscurité, créant une douteuse lueur crépusculaire. Les chants de l'oiseau veilleur à la tête ornée d'une crête n'y appellent pas l'aurore et aucune voix n'y rompt le silence, ni celle des chiens vigilants, ni celle de l'oie, plus subtile que les chiens. Ni bêtes sauvages, ni troupeaux, ni branches agitées par le vent, ni éclats de voix humaines ne produisent le moindre bruit. C'est le règne du repos muet. Cependant, de la base du rocher sourd, le ruisseau du Léthé, résonnant sur des cailloux, son onde glisse dans un murmure et invite au sommeil. Devant l'entrée de la grotte, fleurissent de féconds pavots et des plantes sans nombre. La nuit recueille la vertu soporifique de leur suc qu'elle répand avec sa rosée sur les terres sombres. Point de porte risquant de grincer en tournant sur ses gonds. Aucune porte dans toute la demeure. Aucun gardien sur le seuil. Mais au milieu de l'antre se dresse un lit d'ébène, orné de duvets assortis à la couleur du bois et recouvert d'un voile sombre, où est étendu le dieu en personne avec ses membres alanguis. Autour de lui gisent de tous côtés, prenant des formes variées, les songes inconsistants, nombreux comme les épis d'une moisson, les feuilles d'une forêt, ou les grains de sable rejetés sur le rivage.
Dans cette contemplation en profondeur, le sujet prend aussi conscience de son intimité. Cette contemplation n'est donc pas une empathie immédiate, une fusion sans retenue. Elle est plutôt une perspective d'approfondissement pour le monde et pour nous-mêmes. Elle nous permet de nous tenir distants devant le monde, devant l'eau profonde. Tu choisis ta vision. Tu peux voir à ton gré le fond immobile ou le courant, la rive ou l'infini. Tu as le droit ambigu de voir et de ne pas voir. Tu as le droit de vivre avec le batelier ou de vivre avec des nouvelles fées laborieuses douées d'un goût parfait, magnifique et minutieuse. La fée des eaux, gardienne du mirage, tient tous les oiseaux du ciel dans sa main. une flaque contient un univers. Un instant de rêve contient une âme entière. Après un tel voyage onirique, on verra le château intérieur construit par les quatre architectes des rêves constructeurs, par les quatre grands maîtres des éléments oniriques fondamentaux. Il a l'air de se soutenir dans les airs comme par miracle, faisant étinceler sous la rouge clarté du soleil ses fenêtres encorbelées, ses miradors, ses minarets et ses tourelles, et semble l'œuvre fantastique des sylphes, des fées, des génies et des gnomes réunis. Mais la lente introduction, tout à la gloire des constructions aériennes de l'eau, dit assez nettement que l'eau est la matière où la nature, en d'émouvants reflets, prépare les châteaux du rêve.
Il quitte son banc, il monte sur le pont, saute dans la mer, il nage à travers les flots qui bouillonnent. Sa tête s'éloigne, fend l'eau, monte, descend dans les vagues noirâtres qui se soulèvent aux abords des premiers rochers de l'île. Boutès nage vigoureusement, tant son corps brûle d'entendre les voix aiguës des oiselles aux têtes et au sein des femmes, qui attire son corps tendu et humide. Il s'approche à la nage de la roche périlleuse qui dévance le rivage. Il voit déjà derrière elle la prairie. Déjà, il va aborder l'île qui chante, mot à mot, le rivage enchantant, la terre enchanteresse.
Je suis passager sur un paquebot. J'entends comme un bruit de fond, au-delà du souffle, du vent, le ronronnement des moteurs. Toutes les nuits, quatre fois chaque nuit, je dégringole les coursives. J'ouvre les quatre portes étanches. Les rêves est une descente dans la salle des machines. Le rêve dévoile, durant un temps délimité, un mouvement qui, lui, est permanent. C'est pourquoi le rêve est action, mise en scène, succession. Il est conscience exacerbée du temps. Même celui qui ne prête pas attention à ses rêves perçoit ces bourdonnements permanents qui sourdent des tréfonds, les bruissements du silence. Les rêves est une cinématique. C'est pourquoi il est si difficile de le décrire. On les voit s'échapper aussitôt les rêveurs éveillés, déjà répartis ailleurs. La difficulté à s'en souvenir est à la mesure de la prise de conscience de la mobilité du rêve. C'est pourquoi le rêve se décline en verbe, alors qu'on y cherche des personnages et des situations. Il se résume à des concepts, alors qu'on voudrait y retrouver des récits.
Alors, de la foule de ses mires jetons, le père va réveiller celui qui est un maître dans l'art d'imiter la figure humaine, Morphée. Nul autre ne reproduit plus habilement que lui une démarche, un visage et le timbre d'une voix, et par surcroît, les tenues et les propos les plus caractéristiques de chacun. mais il n'imite que les êtres humains, tandis qu'un autre s'échange en bête sauvage, en oiseau, en serpent longiligne. Les dieux le nomment Icélos et le peuple des mortels Phobétor. Il en existe aussi un troisième, doté d'un talent différent, Phantasos. Celui-ci emprunte fallacieusement toutes les formes des corps inanimés, terre, pierre, eau, tronc d'arbre. Ses songes s'émontrent d'habitude la nuit aux rois et aux généraux. D'autres visitent les peuples et les gens des communs. Le sommeil, leur aîné, passe devant eux, et parmi tous les frères, il choisit le seul Morphée pour obéir à la fille des Taumas. Puis, à nouveau, en proie à une molle langueur, il laisse retomber sa tête et l'enfuit sous une épaisse couverture.
Le rêve est un bonheur et une chance. Il est vrai que tout le monde rêve, et probablement 4 ou 5 fois par nuit. Mais un rêve qui s'évanouit est comme un fruit qu'on n'a pas cueilli. Issu de ton sommeil le plus profond, les rêves te spécifient. Nul autre que toi ne pourrait le faire à ta place. Nul ne peut les connaître si tu ne lui racontes. Il est avant tout machinerie instinctive, faisant en sorte que demain, ce soit la même personne qu'aujourd'hui. Les rêves travaillent toutes les nuits, infatigablement, à la sauvegarde du soi. Pourtant, les rêves est une place publique, l'espace où tu peux rencontrer des êtres à l'étrangeté radicale avec lesquels échanger. Toi qui crois à Dieu ou au diable, tu peux les croiser là. Et toi qui n'y crois pas, tu peux dialoguer avec ton noyau biologique, autrement dit, ton créateur. Les rêves est un rendez-vous quotidien avec tes véritables propriétaires. Tu y trouveras aussi tes morts. Un rêve s'écueille au réveil, avant que la première goutte d'eau n'ait bouché les lèvres du dormeur. En l'absence d'un cueilleur de rêves, tu peux simplement poser un carnet et un crayon au chevet de ton lit. Le rêve a besoin du regard d'un autre. Les noter est une promesse de récit. Sinon, il se diluera au fur et à mesure de la journée dans les actes de ta vie, car les rêves est une dette contractée sur l'existence. Il est bien des raisons de te soucier de ton rêve. Les rêves te permettent de fracturer la banalité, de transformer ton point de vue, de modifier la pensée que tu avais de toi-même et des autres, car il initie une transhumance de ton univers.
Finché quel monte esisterà, non avrò più pace nel sonno.
La première partie du manuscrit principal rapportait une histoire fort singulière. Le 1er mars 1925, un jeune homme mince et brun, à l'air fiévreux et agité, avait demandé à voir le professeur Angel pour lui présenter l'étonnant bas-relief dont l'argile était encore extrêmement humide et fraîche. Sa carte de visite annonçait Henry Anthony Wilcox. Le jour de sa visite, poursuivait le manuscrit du professeur, le sculpteur avait abruptement sollicité les connaissances archéologiques de son hôte en lui demandant d'identifier les hiéroglyphes du bas-relief. Son ton, à la fois nonchalant et emprunté, lui valut l'antipathie de mon oncle, qui lui répondit sèchement que l'évidente fraîcheur de la tablette l'apparentait à tout, sauf à l'archéologie. Et le jeune Wilcox répliqua « Elle est neuve, en effet, car je l'ai réalisée la nuit dernière lorsque j'ai rêvé d'étranges cités, et les rêves sont plus anciens que la sinistre tire. » Ou que le sphinx contemplatif, ou que Babylone, aux mille jardins. Ce fut alors qu'il entama un récit sans queue ni tête qui éveilla soudain un souvenir enfoui dans la mémoire de mon oncle et gagna son intérêt fébrile. Il y avait eu, la nuit précédente, une brève secousse sismique, la plus considérable enregistrée en Nouvelle-Angleterre depuis de nombreuses années, et l'imagination de Wilcox en avait été profondément affectée. Durant son sommeil, il avait rêvé pour la toute première fois d'immenses cités cyclopéennes composées de titanesques blocs de pierre et de monolithes crevant les cieux, exsudant une fange verdâtre et imprégnée d'horreurs larvées. Les murs et les colonnes étaient recouverts de hiéroglyphes et des profondeurs invisibles sourdait une voix qui n'était pas une voix, mais plutôt une vibration chaotique que seule l'imagination pouvait convertir en son et que le jeune homme tenta de restituer par cette suite de lettres presque imprononçables. Rthulufthagn. Lorsque le professeur Angel fut convaincu que le sculpteur ignorait tout des sectes ou des sciences occultes en général, il implora le jeune homme de venir lui rapporter ses prochains rêves. Cette proposition porta ses fruits car à la suite du premier entretien, le manuscrit dresse la liste des visites quotidiennes de Wilcox au cours desquelles il décrivit les saisissants fragments d'imaginaires nocturnes, toujours empreints du pénible et cyclopéen spectacle de monuments sombres et suintants, hantés par une voix ou une conscience souterraine, dont les hurlements monocordes charriaient d'énigmatiques percussions sémantiques impossibles à reproduire, sinon par un grotesque charabia. Les deux sonorités les plus fréquemment répétées étaient celles transcrites au mieux par les lettres Rthulu et Rlie.
Ciascuno ha il sonno che si merita, Endimione, e il tuo sonno è infinito di voci e di grida e di terra, di cielo, di giorni. Dormilo con coraggio, non hai altro bene, la solitudine selvaggia è tua, la vedrai questa notte.
Alla fine, ils atteignirent une caverne, d'où la lumière semblait couler à flots, tantôt blanche, tantôt fusant en mille couleurs. Des papillons de nuit dansaient devant la lumière, et derrière ces papillons, il y avait un épais voile de fil de soie qui remuait avec ardeur, de-ci, de-là, par-ci, par-là, en tous sens. Et au-dessus de la caverne était écrit « Je suis tout ce qui fut et qui sera ». Et nul mortel n'a jamais soulevé mon voile. Et Proserpinus Proserpina dansa devant la soie dorée, qui semblait être filée de la lumière qui brillait à l'intérieur de la caverne. Et à l'intérieur se trouvait une forme qui tenait à la main un bâton ou un fuseau, et que toute la matière vivante dont elle filait la lumière empêchait d'être vue. Mais Seth crut voir un visage d'une grande beauté, illuminé d'or, et puis il crut voir un lion ardent et rutilant qui retroussait ses babines et montrait des crocs cinglants. Et il tomba à terre et dit « Je vous supplie de m'aider, je suis venu de loin pour vous supplier de m'aider. » un petit papillon crépusculaire brun qui semblait porter des gribouilles hiéroglyphiques sur ses ailes intérieures terreuses, dit « Je suis Noctua Caradrina Morpheus et j'essaire la dispensatrice des rêves. » Il t'est commandé de t'étendre sur le seuil, de dormir dans la poussière et d'accepter les rêves qui te viendront, quels qu'ils soient, bons ou mauvais. Et Seth dit « Le sommeil sera le bienvenu. Je me sens déjà tout somnolent. Je voudrais bien dormir ici, même si c'est sur la terre nue. » Alors il s'étendit dans la poussière, au bord de la caverne de la fée, et Caradrina Morpheus, en volant lourdement, passa et repassa devant ses yeux, les saupoudrant d'une poussière brune et charbonneuse, et Seth tomba dans un profond sommeil.
J'ai vu un enfant bleu dormir dans la forêt verte et ricaner avec les arbres. J'ai vu une femme en robe de menthe s'accrocher aux larmes fleuries de bois. J'ai vu un enfant rouge qui s'élançait au sein de sa mère. J'ai vu une femme enceinte pleurer dans les marais nus, aux senteurs d'esclaves, au rire des marins. J'ai vu un enfant bleu. J'ai vu un enfant bleu. J'ai vu un enfant bleu. Et cet enfant, c'était moi.